Demain déjà, chers amis, nous vous apporterons notre dernier message. Et le camp de famille de l'acte sera terminé pour nous d'une certaine manière, puisque nous vous quitterons demain soir après la réunion. Je dis d'une certaine manière, car il se continuera dans nos cœurs. Vous êtes dans nos cœurs, comme le dit l'apôtre Paul, à la vie et à la mort. C'est comme cela que nous faisons connaissance entre enfants de Dieu. Et nous continuerons à prier pour vous, pour vos familles, pour ces enfants que vous nous avez donné la joie de connaître et que nous voudrions voir grandir à la gloire du Seigneur. Et ce soir, nous allons encore vous parler de ce thème « Cri de l'âme et réponse de Dieu ». Et j'aimerais simplement vous poser une question, vous demander en toute simplicité, est-ce que ce thème traité « Cri de l'âme et réponse de Dieu » a pu répondre à quelques-uns de vos besoins personnels? Est-ce que vous avez trouvé un écho dans vos cœurs en écoutant ces cris que nous avons sortis de la parole? Où est Dieu? Où est ton Dieu? Est-ce que ça vous disait quelque chose? Est-ce que ça vous rappelait une situation? Ou pourquoi? Peut-être que vous ne vous en étiez jamais posé. Pourquoi? Ou juste à quand? Ou comment? Avez-vous reconnu quelques-uns de vos propres soupirs? Que dis-je? Quelques-uns de vos cris vers le Dieu vivant? Un Dieu qui a des oreilles qui entend, un Dieu qui a des yeux qui voient, un Dieu qui a un cœur qui aime, un Dieu qui a une bouche, des lèvres, qui répond. Le Dieu vivant. J'étais frappé encore de la manière dont il a parlé dans cette église à notre frère. Il y avait le Dieu vivant. Il a crié, il y a une réponse. Puis le Seigneur se révèle d'une façon progressive, c'est ça qui est absolument merveilleux. Alors hier, nous avons considéré quelques comment de l'Écriture. Ce comment de Zacharie, Marie d'Élisabeth, qui est un comment, comme nous l'avons vu, qui comporte un doute au sujet de l'accomplissement des paroles de Dieu. Et pour lui, le signe qu'il a demandé, c'était un jugement. Il est devenu muet. Ça rejoignait ce que notre frère disait ce matin au sujet de Pierre. Quelquefois, c'est un jugement. Et pour Zacharie, c'est un jugement. Vous voyez comme tout correspond dans la parole. Il y a différents aspects à certaines vérités, mais elles correspondent, il ne faut jamais les opposer. Et quand vous pouvez penser que peut-être on a une opposition dans les prédications, c'est pas du tout exact. C'est que les uns soulignent un aspect d'une vérité, tandis que l'autre souligne un autre aspect. Ne les opposez pas. C'est toujours Satan qui fait cela, mais rassemblez-les, parce qu'il y a différents aspects. Si je vous dis de me décrire ma main et que je vous montre ma paume de main, vous faites une description. Mais si je demande à Josaphat de me décrire ma main, il voit l'autre côté. Il n'y a pas opposition, il faut rassembler les deux choses. Alors gardez-vous d'opposer quoi que ce soit dans la prédication. Après le comment de Zacharie, nous avions vu le comment de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, qui est un comment d'émerveillement. d'attente paisible et de soumission, de commande Marie. Ce n'est pas le commande Zacharie. Puis, nous sommes passés au comment du théologien Nicodème, et qui, lui, ne comprend pas ce que Jésus entend par la nécessité de naître de nouveau, cette nouvelle naissance. Ça, c'est le comment d'un sage, d'un homme religieux, le comment de la difficulté intellectuelle qui comporte aussi une certaine tristesse, parce que je suis vieux, c'est plus pour moi. Et alors, ces trois comment nous ont amenés au comment de l'apôtre Paul au sujet de la résurrection des morts. Alors, voyez, on a essayé de couvrir ces grandes questions. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Nous avons vu donc hier quatre comment, alors qu'il y en a une multitude dans l'Écriture. Nous n'en avons pris que quatre. Et nous avons vu et entendu aussi les réponses de Dieu à ces comment. J'aurais pu aussi vous signaler, et j'y avais pensé, mais on ne peut pas tout dire, vous signaler les comment ou quelques comment du Seigneur, ces comment qu'il adresse à nos âmes, parce qu'il y en a beaucoup, et dans l'évangile de Marc, nous en trouvons aussi. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Voilà un comment du Seigneur. Il dit les commandes du Seigneur. Marc 4, verset 40. Ou encore, ce comment que Jésus dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses célestes, mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et vous savez, j'ai vraiment à cœur ces choses célestes. Et j'insiste sur ce fait. Préoccupez-vous des choses célestes. Ça ne sera pas une évasion. Parce que dès que vous serez plus familier aux choses célestes, vous serez aussi mieux employé pour les choses terrestres. Pour accomplir les choses terrestres, il faut que vous ayez une connaissance des choses célestes, afin que vous puissiez apporter quelque chose de cette vie céleste sur la terre. Dans cette vie céleste, tout est paix. Nous sommes dans un monde où tout est trouble. Et qu'est-ce que nous allons apporter? Nous devons apporter la paix du ciel. Les hommes essayent de parler de paix partout. Ils font des marches pour la paix. Je n'irai pas faire une marche pour la paix. C'est pas la paix d'en haut. C'est pas la paix de Dieu. Si vous prenez le temps d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, eh bien vous connaîtrez ce qu'est la paix de Dieu. Vous connaîtrez ce qu'est la joie du ciel. Vous connaîtrez ce qu'est l'amour du ciel. Et alors, dans votre vie de tous les jours, vous pourrez communiquer un peu de cette joie, de cette paix, de cet amour qui vous imprègne quand vous vivez dans les choses célestes. C'est ce qui a pu permettre à Paul d'endurer toutes les souffrances. Parce que sans ça, c'est impossible de souffrir. C'est impossible pour notre chair de tout supporter. Il faut cette vie céleste pour endurer la souffrance. La souffrance que nous avons sur la terre. Mais voyez-vous, j'y pensais ce matin, on parlait de payer le prix, c'est vrai. Et on m'avait demandé à Aix-en-Provence, il y a un mois et demi, de parler de cela, du prix à payer pour être un serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé de lui. Et il m'a dit, mais c'est moi qui ai payé le prix. Pour que tu sois un serviteur fidèle, tu n'as pas le droit d'être fidèle. Mais enfin, nous pensons toujours que nous devons payer quelque chose. Hein?
C'est vrai dans un sens. Il y a des choses que nous devons dire, c'est vrai. C'est une question de langage. Mais au fond, le prix à payer pour que nous soyons des serviteurs fidèles, qui l'a payé? C'est Jésus. C'est Jésus. Le prix, c'est lui qui l'a payé. Et c'est ça que je dois avoir devant les yeux. Il l'a payé un si grand prix. Ce n'est pas d'excuse pour être fidèle. Il a payé pour que je sois fidèle. Et c'est lui qui me gardera fidèle. Parce que sans ça, j'aurais peur. Plus vous avancez, plus vous êtes tremblant. Et on ne s'habitue pas à prêcher l'évangile. C'est pas possible. C'est toujours en tremblant. Comme notre frère le disait ce matin, on influence forcément les gens. Vous avez vu avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est tellement vrai, ça, qu'il avait toujours une parole là qui sortait, là, sur la montagne de la Transfiguration, par exemple, ben, il a dit, il ne savait pas lui dire. Alors, faisons trois tentes, ben, ça sort. Il ne savait pas lui dire, il l'a dit plusieurs fois dans les trois évangiles, hein. Il était coincé, mais il fallait qu'il sorte quand même quelque chose, alors, faisons trois tentes. Et il ne se rend pas compte qu'il rabaissait le Seigneur Jésus au rang des prophètes, de Moïse et d'Élie. Moïse et Élie, bien sûr, c'était le grand prophète. Mais il les rabaissait, il mettait Jésus au même niveau que Moïse et Élie. Ben, quand il parlait vraiment par inspiration, ça ne venait pas de lui, ça ne sortait pas de son cœur, et Jésus le lui dit. Hein. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Quand tu dis une vérité, ça vient de mon Père. Mais quand tu veux te laisser aller, c'est Satan qui te pousse. Alors arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. Alors qui est-ce qui inspire les pensées des hommes? C'est Satan. Moi je crois qu'il n'y a que deux sources d'inspiration. Il y a Dieu, puis il y a Satan. Alors on peut être l'instrument de Dieu, puis juste quelques instants après, l'instrument de Satan, et ça fait frémir. Et ça, c'est pas n'importe qui a dit ça. C'est l'apôtre Pierre, le choisi. Et je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit par notre frère dans cet enseignement de l'apôtre Pierre et que nous trouvons spécialement dans cet évangile de Marc. Et je tiens à le dire d'une façon absolument claire. Alors ce soir, vous me direz, mais votre sujet, ben j'y arrive. Après les comment que le Seigneur pose à nos cœurs et à nos consciences, c'est comment vous étudierez hors du camp. Aujourd'hui, dans notre avant-dernière soirée, nous aimerions simplement résumer tous ces cris de l'âme par cette parole du psalmiste qui apparut dans le pamphlet qui faisait connaître le camp d'Actes, psaume 25, verset 4. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et ce texte-là, je pourrais le résumer par une autre parole, la parole du psaume 143, verset 9, où vous lisez « Enseigne-moi, ô Dieu, à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté. » Ça, c'est mon cri. Ça, j'espère que c'est votre cri. Ce soir, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et voyez-vous, c'est un sujet tellement important. Je dirais que c'est le cri des hommes de Dieu de l'Ancien Testament, de tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, que nous trouvons résumé dans cette prière du psaume 143. Et alors, la réponse de Dieu à ce cri, enseigne-moi à faire ta volonté, mais la réponse de Dieu, elle est certaine et véritable, et je la trouve particulièrement, parce que je résume tout par un seul verset, toutes les réponses, dans Ésaïe, chapitre 30, verset 21, et je puis en rendre témoignage que ça c'est vrai. Que vous alliez à droite, selon la version d'Arby, ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront, non pas une voix, comme l'a traduit Second, mais une parole, disant, c'est ici le chemin, marchez. Vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Dieu vous dit, parce qu'il ne veut pas que vous alliez à gauche ou à droite sans savoir où vous allez. Que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, si vous suivez tel chemin, il faut que vous ayez pu entendre une parole vous confirmant, vous disant, c'est le chemin, marchez. Et vous pouvez être sûr que vous ne serez pas trompé. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Et alors, ça je résume tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Hein. La prière, ô Dieu, fais-moi connaître ta volonté, et la réponse de Dieu, je te conduirai. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi la place centrale et qui est donnée à ce besoin de l'âme humaine, connaître la volonté de Dieu. Prenez les évangiles. Je vous résume cela rapidement. Écoutez Jésus. Quand il enseigne la prière dominicale, comme on l'appelle, et qu'est-ce qu'il dit? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, voilà un sujet capital. Il est question que, dans le ciel, des êtres font la volonté de Dieu. Qui sont ces êtres? Ce sont les anges. Et vous les avez déjà entendus, hein. Même les séraphins, ces êtres si purs, quand ils sont là, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre? Les séraphins s'exhortent l'un l'autre. Ils se parlent l'un à l'autre, et qu'est-ce qu'ils disent? Saint, 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 et l'Éternel des armées. Les séraphins s'exhortent à la sainteté. Ils s'exhortent dans le ciel. Alors nous, sur la terre, combien plus nous devrions nous exhorter, les anges s'exhortent. Et nous, frères et sœurs, nous avons à nous exhorter et à comprendre que ce qui compte pour nous, c'est de faire la volonté du Seigneur. Et de la faire avec cette obéissance totale qui caractérise les anges élus. Avec la même promptitude, avec la même obéissance, sans discuter les ordres du Seigneur. Les anges sont au service de Dieu. Les instruments que Dieu emploie, pour qui? Pour ceux qui doivent hériter du salut. Et si nous pouvions davantage être conscients que nous sommes environnés d'anges. Il y a des moments dans notre vie où l'on éprouve cette présence tout à fait angélique, où on se rend compte qu'il y a eu des anges sur notre chemin. On ne les a pas vus, mais on a éprouvé leur présence. On n'est jamais seul. Quel réconfort. Les anges sont là aussi. Et alors, un peu plus loin dans ce sermon sur la montagne, encore pour souligner l'importance que Jésus donne à la volonté de Dieu, et quand il dit au chapitre 7, verset 21, vous trouverez le verset, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ça rejoint ce que notre frère disait, hein, ce soir. De tout ce qu'on peut être, de tout ce qu'on peut savoir, mais ce n'est pas ce qu'on peut savoir, ce qu'on prétend être, c'est la réalité. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, moi, je suis saisi par cela. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Puis, je pense aussi à un verset dans Jean, au chapitre 7. Il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il connaîtra? Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Ça, j'avais, je pense, 14 ans, quand ce verset m'a été imposé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Alors, laissons maintenant les évangiles où il est question justement de cette volonté de Dieu que le Seigneur est venu nous manifester, mais prenez le livre des Actes. Ça m'a toujours beaucoup frappé que le premier message que Saul de Tarse a reçu d'Ananias, et qui pour moi est le message clé que nous devrions pouvoir donner à tout nouveau converti. Ananias est envoyé vers Saul de Tarse. Vous connaissez la conversion de Saul de Tarse, je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais il est là en prière, dans cette rue appelée la droite, dans la maison de Judas. Et Ananias, qui avait tellement peur de rencontrer ce Saul de Tarse, Ananias doit y aller, il y est envoyé, et il a un message. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le Dieu de nos pères t'a choisi à l'avant. Ça rejoint encore le témoignage de notre frère. Choisi à l'avance. Même avant sa naissance, nous avons eu une place dans la pensée de Dieu. Ça commence même avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et puis, quand il était dans le sein de sa mère, il était déjà choisi. C'est quelque chose de fantastique. Il était choisi, vous étiez choisi dans sa maternité. Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance. Pour faire quoi? Première chose, pour connaître la volonté de Dieu. C'est pour ça que je crois que les chrétiens, les vrais chrétiens, devraient être plutôt des spécialistes de la volonté de Dieu. Ils sont choisis pour cela. Parce que ce n'est pas seulement Saint Paul, c'est nous tous. Si nous appartenons au Seigneur, nous faisons partie de son corps et nous avons été choisis pour connaître la volonté de Dieu. S'il y a des gens qui pourraient connaître la volonté de Dieu, ce sont les chrétiens. Or, c'est un problème. C'est pas fait. La volonté de Dieu ne devrait pas être un problème. La volonté de Dieu devrait être une chose que nous connaissons d'une façon claire. Parce que la volonté de Dieu, elle a été clairement révélée. Et elle veut l'être pour chacune de nos vies. J'aimerais que vous puissiez être certain de cela. Si vous n'en êtes pas certain, ben criez, criez. Fais-moi connaître ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur. Instruis-moi. Voilà le psaume 25 qui a été cité sur le prospectus du camp. Mais que ce ne soit pas simplement un texte qui annonçait un message, mais que ça devienne votre requête, votre prière. Enseigne-moi à faire ta volonté. Saul de Tarse entend ses paroles. Tu es choisi pour connaître la volonté de Dieu. Puis ensuite, pour voir le juste. Et puis, entendre. Non pas une voix, mais littéralement les paroles de sa bouche. Parce que les voix peuvent nous tromper. Hein. Mais c'est de nouveau les paroles. Pour entendre les paroles de sa bouche. Et c'est par les paroles de sa bouche que nous serons conduits dans le détail quotidien. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le Saint-Esprit devenant vraiment notre mémoire, quand on est régénéré, le Saint-Esprit nous rappelle une parole qui illumine notre route et qui et nous donne une conviction et qui nous amène à prendre une décision. Tant Seigneur. Parce que tout ce qu'on ne fait pas par conviction, c'est un péché. Il n'y a pas seulement le péché en parole, péché en action, péché en pensée. Moi, pendant longtemps, j'étais avec ces trois péchés, je me débattais avec ça. Mais ensuite, j'ai compris le péché par omission. Pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Puis ensuite, ce manque de conviction, c'est un péché. Nous devons être des convaincus pour nous-mêmes, dans ce que nous avons à faire. Pas être toujours dans le tout, mais convaincu. Ça ne veut pas dire être sûr de soi, mais sûr de lui, et sûr de ce qu'il nous demande. Il y a une foule de choses qu'il ne nous a pas demandé de faire et que nous faisons. Nous nous tuons à faire des choses qu'il ne nous a pas demandé. Alors nous sommes crevés. Nous sommes des serviteurs, nous sommes crevés. Mais non, ce n'est pas juste. Nous devrions être renouvelés sans cesse. Parce que le Seigneur ne nous demande pas plus que nous ne pouvons faire. Il mesure notre tâche aussi à nos forces. Alors, donc souvenez-vous, je résume tout le message des actes par ce texte que nous citons dans le chapitre 22 des actes, versets 14 à 16, que je vous demande de méditer. Dieu vous a choisi pour connaître la volonté de Dieu, pour voir le juste, vous avoir une vision, qui est-ce que vous aurez devant vos yeux, quel est votre modèle, et puis entendre quoi? Les paroles de sa bouche, les siennes, les siennes. Alors, maintenant, passons en revue très rapidement aussi les épîtres. Romains 12, verset 2. Eh bien, en réponse à toutes les compassions de Dieu, dit saint Paul dans le chapitre 12 des Romains, eh bien, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Il nous est demandé d'être renouvelés dans l'esprit de notre entendement pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce monde. Cette volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Et voyez-vous, plus on avance, plus on dit c'est vrai. La volonté de Dieu, il n'y a que cela qui est vraiment bon. Et il n'y a que cela finalement qui est agréable. Et il n'y a que cela qui est parfait. Alors Dieu veut nous donner du discernement, et c'est ce qui manque le plus aux chrétiens souvent, le discernement. Eh bien Dieu veut que nous discernions sa volonté. C'est Romains chapitre 12, où vous trouvez cela. Prenez maintenant Éphésiens, un autre mot, un autre verbe, qui montre l'importance de notre sujet, connaître la volonté de Dieu, la discerner. Mais maintenant, dans Éphésiens 5, nous lisons au verset 17e, 16e, déjà, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans Romains, il faut la discerner, et ici, dans Éphésiens, il faut la comprendre. Si on n'a pas compris, on ne sait pas. Hein. Mais quand on a compris quelque chose, alors on agit avec conviction. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Maintenant, si vous allez dans Colossiens, vous voyez encore une fois l'importance du sujet, verset 9 du chapitre 1er. Paul dit qu'il priait pour les Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et Paul ne faisait pas des prières pour rien. Hein. S'il demandait que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté, ils seraient exaucés. Mais il avait cette sainte ambition que les gens de Colosse soient des gens qui sachent ce qu'est la volonté de Dieu. Qu'ils soient remplis de cette connaissance dans un monde qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent être des gens remplis de cette connaissance. Puis, si vous allez dans l'épître aux Hébreux, dont l'auteur est anonyme, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça a peu d'importance, c'est la parole de Dieu, mais dans le chapitre 13e, au verset 20e, je lis que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà la prière de l'auteur de l'épître aux Hébreux, que nous puissions être rendus capables. J'étais amusé ce matin parce que j'entendais une petite fille, pas plus haute que ça, qui disait à sa maman, alors qu'elle avait beaucoup de peine à grimper sur les marches, je suis capable. Ça m'a fait tellement de bien parce qu'il y a 20 ans, j'entendais toujours dans les camps des jeunes qui n'avaient pas cet âge-là, qui étaient déjà des grands, qui disaient que je suis pas capable. On avait dit avec ma femme que vraiment on donnerait un gage à ceux qui disaient « je suis pas capable ». Donc la petite comme ça disait « je suis capable ». Puis elle gravissait ses marches. Hein. Eh bien, c'est le Seigneur qui va nous rendre capables. Lui va nous rendre capables d'accomplir cette volonté. Il ne nous demande pas quelque chose sans nous donner la force de l'accomplir. Ce que Dieu ordonne, ça j'en ai fait l'expérience, il le donne. On pourrait parler de ce qu'on trouve sur la volonté de Dieu dans l'épître de Pierre, dans l'épître de Jacques, et aussi dans l'épître de Jean, où en particulier il nous dit que la figure de ce monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qui lui arrive? Il demeure éternellement. Jean, chapitre 2, il demeure éternellement. Et puis, il y a encore une autre parole dans Jean, la première épître, chapitre 5, verset 14 à 15, c'est l'exaucement des prières. Si nous demandons quelque chose selon la volonté, nous savons qu'il nous écoute et nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. L'exaucement des prières, eh bien, elles sont exaucées quand nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté. Alors pourquoi prier sans savoir? Nous devrions connaître la volonté de Dieu. Et on va à Dieu avec ses promesses. Voilà ce que tu as dit, Seigneur, je te rappelle. Et Dieu répond. Nous avons un Dieu qui répond aux prières. Mais il nous faut être remplis de ces... C'est ça le cri de l'âme. Et le Seigneur va nous répondre. Et voyez-vous, dans l'Apocalypse, encore, au chapitre 4, au verset 11, il nous est rappelé que toutes choses ont été créées par Dieu et que c'est par sa volonté qu'elles existent. Hein? Voilà ce que nous dit la Bible tout entière. Alors, maintenant, quelques questions. Est-ce si difficile de connaître cette volonté? Voyons. Elle est révélée dans, je citerai, trois domaines, où c'est clairement révélé la volonté de Dieu. Quels sont ces trois domaines? Et ça nous touche. D'abord, si vous êtes croyant, si vous êtes sauvé, c'est pour glorifier Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Ce que Dieu veut, il nous l'a clairement dit. Quant à lui-même, qu'est-ce qu'il veut? Sa gloire. Et vous avez un texte, une parole qui est absolument affirmative, 1 Corinthiens 10, verset 31, qui pour moi est capital. Ce que Dieu veut, c'est sa gloire, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, c'est tout pour la gloire de Dieu. Si vous ne pouvez pas être sûr que c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, vous vous posez simplement, est-ce que cela, c'est à la gloire de Dieu? Si vous avez quelque intimité avec Dieu, vous saurez bien que c'est à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Et le Saint-Esprit affirme et vous dit oui, c'est à la gloire de Dieu. Alors, il n'y a plus d'obstacle là. Mais ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, si Dieu n'est pas glorifié dans ce que je me propose, je ne le ferai pas. Il n'y a pas de discussion. Il faut être absolument catégorique. Vous connaissez la volonté de Dieu. Quant à ce qu'il veut pour lui-même, il veut sa gloire. Qu'est-ce qu'il veut maintenant pour mon prochain? Est-ce qu'il y a un texte dans l'Écriture qui nous dit quelque chose au sujet de sa volonté pour les hommes? Un Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Alors ça me montre qu'on, je dois veiller pour que vraiment ma vie puisse les aider à venir à la connaissance de la vérité. Alors, vis-à-vis de mon prochain, j'ai à chercher son bien, à vouloir son bien. Bien sûr, le salut de son âme, mais dans tous les domaines, le bien du prochain. Puisqu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la volonté de Dieu pour notre prochain, nous la connaissons. C'est son salut éternel, mais aussi son salut dans la vie de tous les jours. Alors, si dans ce que je me propose, ça ne va pas contribuer au bien de mon prochain, je sais que c'est inutile, c'est pas la bonne position. Maintenant, tout à moi-même, voilà, on a vu le domaine de nos relations avec Dieu, on le connaît, sa gloire. Pour notre prochain, leur salut, leur bien, et puis pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'il veut ? Vous connaissez un autre texte qui dit clairement ce que Dieu veut pour moi ? La sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais vous voyez que c'est toujours là. Et vous avez à la base de votre manière d'agir, de votre manière de vivre, de votre comportement dans le monde, vous avez la parole de Dieu, non pas les idées d'hortelles sur la volonté de Dieu. Mais vous avez la parole. Ce que Dieu veut pour nous, c'est ma sanctification. Donc, deux fois c'est répété dans ce chapitre 4, au verset 3 et au verset 7. Hein. Alors, vous allez toujours penser à ça. Est-ce que, dans ce que je me propose, est-ce que ça contribue à ma sanctification ? Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes et qui pourraient m'occuper. Je ne ferais pas de mal en m'occupant de ces choses-là. Mais est-ce que ces choses contribuent à ma sanctification ? Est-ce que cela me rapproche du Seigneur ? Est-ce que cela fait battre davantage mon cœur pour lui ? Est-ce que cela contribue à augmenter mes affections spirituelles pour le mon Seigneur ? Non ? Eh bien, je laisse ça de côté. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça ? Vous pouvez le faire, mais moi, c'est inutile. Comprenez ? On a des convictions personnelles, on a une vie personnelle avec le Seigneur, il n'y a pas besoin de regarder ce que les autres font. Ils font ça, moi je peux aussi le faire. Est-ce que ça, peut-être pour cette personne, elle peut le faire, parce que ça ne l'éloigne pas du Seigneur, mais moi ça m'éloignerait du Seigneur, parce que j'ai une autre nature. Moi, je ne me permettrai pas cela, parce que pour moi, hein, ça m'éloignerait. Mais ça ne veut pas dire que ça éloignera l'autre, c'est pour ça que je n'ai pas à juger mon frère. Ne jugez pas, je n'ai pas à juger les libertés de mon frère. Mais j'ai à voir ce qui me convient, moi. Je sais qu'il y a des choses qui m'éloignent du Seigneur. Je sais que ça va me donner des pensées qui me retarderont. Eh bien, non. Ça, je préfère. Je préfère m'abstenir. Toutes choses sont permises. Je ne vous remets pas sous la loi. Mais je voudrais, est-ce qu'elles vous sont utiles ? Tu en as peu de temps. Alors, il y a des choix qu'on est amené à faire. Et voyez-vous, c'est peut-être cela, quand on parle de prix à payer, il y a des choix. Il y a des choses auxquelles on renonce, mais pas qu'on me sacrifie, mais parce qu'on a un but. Et qu'on connaît les pensées de Dieu. Ce qu'il veut pour lui, ce qu'il veut pour mon frère, et ce qu'il veut pour moi-même, ma sanctification. C'est-à-dire que je sois de plus en plus tout pour lui. Captivé par lui. Et en même temps qu'il veut ma sanctification, si je pense encore à un autre texte des Thessaloniciens, oh c'est tellement beau la parole. Et c'est ça qui pourrait me faire. Ce ne sont pas mes idées. Consultez la parole, soyez comme les chrétiens péris. Ce que Dieu veut, c'est qu'en toute chose nous puissions rendre grâce. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté du Seigneur à votre. Alors ne me dites pas que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Dieu veut qu'en toute chose, nous puissions rendre grâce. Alors, est-ce que pour cela, je peux rendre grâce à Dieu ? Si je ne peux pas rendre grâce à Dieu, si j'ai mauvaise conscience, c'est pas juste. C'est pas sa volonté. Vous devez rester dans l'action de grâce. Vous devez rester dans la louange. Tout ce qui m'empêche de faire ça, alors je laisse de côté. Et voyez-vous, j'arrive à une règle très simple. Quand vous vous souvenez de cela, de ces grandes vérités dans les trois domaines, la règle que je trouve très simple, c'est ceci. C'est que la volonté de Dieu, elle participe à tous les attributs de Dieu et elle s'accomplit non pas par notre force, mais par la puissance de Dieu. Ça, c'est absolument certain. La volonté de Dieu participe à la nature de Dieu, à tous les attributs de Dieu. Et quels sont ces attributs ? Qu'est-ce que Dieu est ? Il est saint. Il est juste. Il est lumière. Il est vérité. Il est amour. Il est grâce. Il est la toute-puissance.
l'ensemble de ces perfections, j'en viens d'en citer sept, qui forment au fond ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'ensemble de ces perfections. Et elles ont resplendi sur quelle face? Sur la face du Christ. Toute la gloire de Dieu, l'ensemble des perfections de Dieu ont été manifestées sur la face du Christ. Et ces perfections divines, ces perfections du Père, parce que celui qui m'a vu a vu le Père, eh bien, si vous contemplez le Seigneur, si vous contemplez sa face, par reflet, eh bien, ça se manifestera en vous. C'est cela que nous devons croire. Alors, souvenez-vous toujours de cela. La volonté de Dieu, elle participe toujours à tous les attributs, à toute la nature de Dieu, et s'accomplit par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par ma force que je fais la volonté de Dieu. Parce que je ne peux pas. Laissé à moi-même, je suis incapable de faire la volonté de Dieu. Mais par la puissance qui est en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous espérons et pensons. Mais quelle est cette puissance? C'est la puissance de Dieu, ce n'est pas notre puissance. N'attribuez jamais aux hommes de la puissance. Ce sont des faits, nous sommes. Mais donnez toute gloire à Dieu, il est la puissance. Puis vous vous sentez sans puissance, heureux êtes-vous. Alors vous la réclamez de lui. Tu l'as dit, Seigneur, c'est ça, le cri de l'âme. Tu l'as dit, Seigneur, je connais ta pensée, je connais ta pensée, je connais ta volonté, je sais ce que tu veux, viens réaliser cela en moi. Alors, dans la vie pratique, si dans ce que je me propose, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la sainteté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ce n'est pas en harmonie avec la justice de Dieu, s'il y a quelque injustice ou quelque souillure dans ce que je vais faire, ce n'est pas sa pensée, ce n'est pas sa volonté. Si dans ce que je me propose, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la vérité de Dieu, ce n'est pas sa pensée. Vous devez bannir le mensonge. Ne pensez pas que vous pouvez vous en tirer comme chrétien avec un mensonge. Les chrétiens, souvent, sont des menteurs. Et il y a des menteurs parmi les chrétiens. Et c'est triste. Et c'est triste. On tolère le mensonge. On dit, oh, c'est une blague. Une blague. Devenez sérieux. Il est un Dieu de vérité. Et il a en haine le mensonge. Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans ce que je me propose, ce n'est pas sa volonté. Si ce n'est pas en harmonie avec son amour, ce n'est pas sa volonté. Si ce n'est pas en harmonie avec sa lumière, si ce que je veux faire, je dois le faire en cachette, que ce n'est pas dans la lumière, ce n'est pas la volonté. Vous êtes des enfants de lumière. Vivez dans la lumière. Alors il y a une foule de choses que vous savez que vous ne ferez pas. Que Dieu ne vous demande pas, ce n'est pas possible qu'il me demande ça, c'est tordu. Donc ce n'est pas Dieu qui vous demande ça. C'est votre église qui vous demande ça. Enfin, est-ce que c'est votre église que vous suivez ou bien c'est le Seigneur, le chef de l'église? Parce qu'il y a bien des choses qui se font dans les églises. Et qui viennent uniquement du monde. Ça ne vient pas de la présence divine. Pourquoi est-ce que le Seigneur doit reprendre les sept églises de l'Apocalypse, ou en tout cas cinq des sept? Eh bien, c'est parce qu'il voit des choses qui ne sont pas conformes à sa pensée. Alors ce que nous devons toujours voir le chef de l'Église, sainteté, justice, vérité, amour, lumière, grâce, et puis puissance. Cette puissance, moi je ne peux pas faire, mais il va me donner sa force. La volonté de Dieu, elle ne s'accomplit pas par notre propre force, mais par la force de Dieu. Alors je suis tranquille. Il ne me demande pas de faire quelque chose de surhumain. Il me demande d'être son instrument dans sa main. J'ai une conviction donnée par le Saint-Esprit. Alors voyez-vous, on est encore sur les moyens qui sont mis à notre disposition pour connaître la volonté de Dieu. Je suis des fois effrayé d'entendre, j'ai entendu des étudiants en théologie à Aix-en-Provence, il y a des années encore quand j'enseignais là-bas. Eh bien, c'était effroyable d'entendre comment ils cherchaient la volonté de Dieu.
Il y en a un qui m'a dit, pourtant il est pasteur, il était missionnaire au Cambodge et au Vietnam, je l'ai connu aussi au Vietnam, c'est moi qui l'ai baptisé du reste, et puis sa femme aussi. Mais c'est pour vous dire, il me disait que dans leur famille, qui était une famille pastorale depuis des siècles, semble-t-il, quand ils devaient connaître la volonté de Dieu, ils jouaient à pile ou face. Ils priaient, puis ils jetaient une pièce de monnaie. Hein. Ils allaient décider si c'est face, on fait ça, si c'est pile, on fait ça. Alors, oui, parce que il y avait le sort dans l'écriture. Dans l'Ancien Testament, il y a le sort. Alors, on tire au sort. Bien sûr, ça, c'était des moyens qui avaient été donnés par Dieu. On jette le sort au giron ou dans le tablier, hein, mais la décision vient de l'Éternel. Mais ça, c'était avant que le Saint-Esprit ait été donné à la Pentecôte. Et puis, on parle de vision. Aujourd'hui encore, on veut avoir des visions pour connaître la volonté de Dieu, des songes. Et c'est vrai que Dieu parlait par des songes et par des visions. Nombre, chapitre 12. Mais tout ça, c'est avant la venue du Seigneur Jésus. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une vision, qu'il ne peut pas y avoir un songe. J'en ai eu et qui se sont réalisés, c'est vrai. Mais quand vous auriez une vision et un songe, vous devriez encore contrôler par la parole de Dieu, parce que vous n'allez pas me faire croire que tous les songes que vous avez eus étaient des révélations divines. Misère. Hein? Si tous vos rêves avaient été des réalités, vous ne seriez pas ici. Puis moi non plus. Moi non plus. Alors, heureusement que ce n'était pas des réalités. Heureusement qu'on s'est réveillé. On a des fois des drôles de révélations dans les rêves. De ce que nous sommes aussi. Alors, mes amis, je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir de son. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir de vision. Mais je dis que ce ne sont pas les moyens pour connaître la volonté de Dieu. Ce ne sont pas les moyens. Et ne recherchez pas ces moyens. Et cherchez des signes, demandez des signes. Vous savez, je pourrais vous en raconter sur ces choses. Sur ces choses-là, hein. Les gens qui demandent des signes, puis ils arrangent les choses pour que le signe se passe. Hein. Ils disent, oh, Seigneur, si je rencontre cette fille aujourd'hui, ben, c'est que c'est ta volonté que je l'épouse. Puis ils savent à peu près par quel endroit elle va passer. Alors ils s'arrangent sur son chemin plus loin. Mais que Dieu soit vrai, mais tout son menteur. Nous sommes des tordus, nous sommes des menteurs. Hein. Et ça, on doit le réaliser. C'est Paul qui dit que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Faisons très attention à cela. Alors ne demandons pas des signes. Nous avons beaucoup mieux que cela pour connaître la volonté de Dieu. Alors il y a aussi des conseils. Je ne dis pas que ce n'est pas à faire. Mais voyez-vous, quand on vient nous demander conseil, il faut que nous fassions très attention. Parce que ceux qui viennent à nous pour nous demander conseil, ils ont déjà été vers Pierre, Jacques et Jean, d'autres frères, hein, pour leur demander conseil. Puis ils espèrent que celui-là, ce frère, va leur dire quelque chose qui pourrait. Oui, ben monsieur, lui, il m'a dit que je pouvais faire ça, hein, un truc comme ça. Hein. Puis il vous expose à sa manière les choses, parce qu'il est assez intelligent pour penser que s'il dit les choses de telle manière, on lui dira ça. Mais si c'était l'exacte vérité, on lui aurait dit autrement. Alors il nous piège. C'est triste de penser que quelquefois on nous piège. C'est pour ça qu'il faut être prudent comme des serpents. Simple comme des colombes, on écoute, mais on essaye de voir ce qui se passe dans le cœur. Dieu nous donne un discernement. Et puis, il nous éclaire. Mais faites très attention. Vous pouvez recevoir des conseils, vous pouvez demander des conseils, mais vous devez connaître du Seigneur sa volonté. Moi, je pense souvent que nous avons dit, nous les protestants, nous les évangéliques, qu'il n'y avait qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas fichus de laisser les âmes seules avec le Seigneur. Il faut toujours qu'on s'y mette. Il faut toujours qu'il y ait un pasteur, ou qu'il y ait celui-ci, ou qu'il y ait celui-là, entre une âme et le Seigneur, pour vous conseiller. Je dis, nous sommes disposés à vous aider. Mais nous devons rechercher nous-mêmes que vous ayez une relation personnelle avec le Seigneur, que vous ne viviez pas toujours sous notre dépendance, pour ne parler après que des hommes, et citer des noms d'hommes, c'est détestable. Que vous créez des jalousies. Et c'est pourquoi les relations entre serviteurs de Dieu sont si mauvaises quelquefois. Alors finissez-en avec l'homme. Et puis aussi les circonstances. Ne dites pas, ben voilà, mais les circonstances sont telles que maintenant, par les circonstances, je connais la volonté de Dieu. Non. Parce que souvent, les circonstances sont une tentation.
Nous ne sommes pas guidés par les circonstances, mais nous sommes guidés par l'esprit à travers les circonstances. C'est pour ça que le livre des Proverbes est merveilleux pour connaître cette volonté de Dieu. Nous sommes guidés par l'esprit à travers les circonstances. Parce qu'il est dit, il y a telle voie qui semble droite à un homme, puis l'issue est issue de mort. C'est pas Dieu qui nous a conduits ainsi. Mais je vous affirme dans le Seigneur qu'il peut vous conduire en toute chose. Alors, résumons tout cela. Ça, c'était des moyens. Je ne dis pas que les circonstances ne viendront pas confirmer que vous êtes dans le bon chemin. Ça, c'est une autre affaire. Mais ce n'est pas les circonstances qui vous ont fait prendre ce chemin. Mais quand vous êtes dans ce chemin, il y a des circonstances qui vous confirment, parce que Dieu est un Dieu qui vous aide, que vous êtes dans le chemin, que vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais vous avez pris cette décision avec le Seigneur. Alors, quels sont les moyens par excellence pour connaître la volonté de Dieu? Pour quelqu'un qui est régénéré, c'est le Saint-Esprit d'abord. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a régénérés et il a fait son habitation en nous. Mais le Saint-Esprit est une personne alors très sensible. Il est en nous, il n'est pas côté de nous, il est en nous. Et évidemment, si je fais quelque chose ou je dis quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il est contristé. Alors je ne l'entends plus. Je n'ai plus cette direction sûre. C'est comme si le Saint-Esprit se tait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en moi, mais il est triste en moi. Il est attristé et il ne parle plus alors qu'il voudrait me parler, il voudrait me conduire, il voudrait me rappeler des textes et qui vont éclairer ma route. Mais voilà, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que il y a des choses, j'étais trop loin, peut-être dans une plaisanterie, puis je sens très bien, j'ai contristé le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je reconnaisse. Faut que je m'humilie, mais pas le soir, mais dès le moment même, parce que je sais très bien que je l'ai contristé immédiatement. On le sent, on l'éprouve. Seigneur, tu vois bien. Voilà, ça c'est ma nature. Ça, c'est sorti. Alors, on se juge de ça. Puis on exalte le Seigneur, puis on le bénit, on dit, comme c'était vrai que j'étais pas un pécheur en peinture, hein, et je le vois encore aujourd'hui. Mais tu n'es pas un sauveur en peinture, tu es un grand sauveur. Alors, quand on s'humilie ainsi, moment après moment, peut-être une parole, on est énervé, on était fatigué, on se trouve toutes sortes d'excuses. Hein, puis, voilà, on a eu une parole méchante à l'égard de notre mari, notre femme, etc. Je ne sais pas. Et voilà, le Saint-Esprit était contristé. Puis alors, il y a une onde, puis les enfants s'en ressentent. Eh bien, je crie au Seigneur, « Seigneur, pardonne, tu vois, j'étais léger de mes lèvres comme pierre, hein, j'ai dit quelque chose comme ça. » Alors, je m'en humilie, je confesse. Mais je confesse pas seulement au Seigneur, mais je demande pardon aussi. Je demande pardon à sa femme, à Marie, c'est le chef. Mais le chef, il peut se tromper. Et puis même, peut-être demander pardon à nos enfants aussi. C'est aussi qu'on a à aller jusque-là, oui. Parce que on a agi dans un moment d'énervement, de colère, puis le Seigneur nous reprend, puis nous dit, mais ton premier paroissien, c'est ton fils, c'était ta fille, c'était tes enfants. Puis après, c'était tes petits-enfants aussi. Donc le Saint-Esprit nous parle, mais c'est lui qui va nous éclairer, et qui devient vraiment notre mémoire. Il ne faut pas le contrister, il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas l'éteindre. Et alors, le Saint-Esprit, quel est son grand moyen? Eh bien, quand il n'est pas attristé, c'est de nous rappeler les Écritures. Mais pour nous rappeler les Écritures, il faut les avoir lues. Et là, je rejoins mon frère. Et nous insistons ensemble, vous devez lire la parole. Vous ne devez pas vous contenter des prédications que vous recevez dans vos réunions, dans les milieux que vous fréquentez. Même si c'est de très bonnes prédications, vous devez lire la parole de Dieu pour vous-même. Et puis dire à Dieu, tu as dit que tu avais caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants, pourquoi tu ne les révéleras pas? Alors vous aurez des choses qui vous deviendront très positives et vous saurez ce que vous avez à faire. Que la parole du Christ habite en vous abondamment. Colossiens chapitre 3. La parole ne doit plus rester dans les couvertures de votre Bible, mais doit être écrite sur les tablettes de votre cœur. Hein? Et puis, il y a l'obéissance, comme disait Françoise, on est sous le joug du Seigneur. C'est ça l'obéissance. Mais c'est un joug aisé. Et c'est un fardeau léger. Et ce joug devient une parure, un collier, comme il le dit dans les proverbes, une guirlande de grâce. L'obéissance, c'est la guirlande de grâce des témoins Seigneur. Donc le Saint-Esprit, les Écritures, et aussi pour parler aux âmes, il est dit que si ces paroles sont en nous et ils sont avec abondance, elles se trouveront disposées sur nos lèvres. J'aime beaucoup aussi ce texte des proverbes et qui est au chapitre 22, versets 17 à 19. Si les paroles du Seigneur sont en nous, elles se trouvent disposées sur nos lèvres pour qu'on sache répondre qu'on ait une parole dite à propos. Et qu'on ne fasse pas du mal avec une parole, mais qu'on donne la vraie parole. Et alors, pour moi, il y a la contemplation de Jésus. Saint-Esprit, l'Écriture, et l'Écriture, donc c'est la parole, mais la parole qui m'amène toujours à une personne, à quelqu'un qui est vivant, le Seigneur Jésus, qui a été dans ce monde la pleine manifestation de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas seulement écrite dans la Bible, mais elle a été vécue par un homme, qui était Jésus, qui est entré dans le monde en disant « Je viens au Dieu pour faire ta volonté », qui au milieu de son ministère dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur, la volonté de mon Père », dans le chapitre 4 de Jean. Puis, à la fin de sa course, qu'est-ce qu'il dit à Gethsémané ? Non pas que je veux, mais que toi, tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et vous savez, quand on arrive à pouvoir dire ça, c'est la grande délivrance. Et là, je pourrais vous raconter des faits précis, même des enfants à qui on a pu inculquer cela, qui ont eu une délivrance immédiate. Je vois encore une de mes petites filles qui se roulait par terre. Mon fils, qui est pourtant doyen de faculté, elle ne pouvait plus rien faire avec elle. Elle était furieuse en rage contre son père. Hein. Et puis il me dit, papa, fais quelque chose. J'étais de passage. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je trouve ma petite fille qui se roulait par terre dans la salle de bain. Et puis je dis, mais qu'est-ce que tu as, ma chère? Mais tu sais, papa, il peut bien dire que c'est Dieu qui le conduit, puis c'est toujours nous qui devons payer. Etc. Et il change de... On l'appelle ici, on l'appelle là, puis nous on l'a pas, puis il faut toujours qu'on suive, qu'on nous dise que c'est la volonté de Dieu. Évidemment, il y avait cette révolte. Il était question, on avait rappelé mon fils au Canada, puis elle ne voulait plus retourner au Canada, pour l'instant, parce qu'elle avait ses amis là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fallait que je lui dise? Elle écumait. Je dis, mais ma chérie, tu sais, pourquoi est-ce que tu ne te souviendrais pas de Jésus? Jésus aussi, il y a eu des choses difficiles pour lui, dans Gethsémané. Il a dit, si c'était possible que cette coupe passe loin de moi, mais moi, si j'étais à ta place, voilà ce que je dirais. Seigneur, si c'était possible, papa n'allait pas au Canada. Alors, elle s'est calmée. Mais pour que ce soit vrai, pour que ce soit sûr, tu devrais quand même dire, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors, j'entends toujours ce cri. Oh, Papitou, tu as raison. Je m'appelle Papitou. Tu as raison. Tu as raison. Elle s'est relevée, elle s'est lavé le visage, elle est sortie. Mon Jean-Bernard dit, papa, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait. C'est la parole qu'il a fait. Croyez-le, la parole de Dieu a autorité sur le cœur des enfants. Et nos enfants nous enseignent. N'ayez pas peur d'y aller avec la parole. Partagez avec vos enfants vos angoisses, vos peines. Il faut que vos enfants participent à votre vie. Et alors, ils auront vu les exaucements. Un jour, justement, mes fils me disaient, quand j'ai fait mes études, il y a eu des moments où je voulais tout jeter, mais ce qui m'a gardé, je ne lisais plus ma Bible, mais c'est la foi de papa et maman. Parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas nier. Puis il a passé sa crise, puis il est revenu. C'est pas pour nous mettre en avant, c'est pas du tout cela. Mais... Nous savons que si nous partageons avec nos enfants nos peines, nos joies, si nous les voulons entrer dans notre vie intime et de prière, bien le Seigneur les façonne, le Seigneur les forme. Puis alors, il voit aussi les exaucements. Que de fils de pasteurs qui ont mal tourné. Il y en a un qui m'a dit, moi, J'ai trop vu que les pasteurs, ils tirent le diable par la queue. Ils parlent du Seigneur, mais ils tirent tout le temps le diable par la queue. Vous savez, cette expression, là, en tout cas dans les vieux pays, on dit tirer le diable par la queue, c'est que ça va jamais bien. On se plaint toujours, il y a ceci, il y a ça. Mais j'espère bien que comme serviteur de Dieu, nous ne tirons pas le diable par la queue. Mais que le Seigneur est notre puissant aimant qui nous arrache à nos misères, parce qu'il est le Dieu des délivrances. Et nos enfants doivent connaître que le Dieu de leurs parents est le Dieu des délivrances. Oui, la souffrance. Et ils savent qu'on passe par la souffrance et que cette souffrance est acceptée. Mais cette contemplation de Jésus-Christ, que ferait Jésus? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Voyez-vous, et ça rejoint ce que disait mon frère, il a dit que Jésus ne faisait rien qu'il n'avait dû faire par le Père. Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Il ne pensait rien en dehors des pensées du Père. C'était ça, sa vie. Ce que le Père pensait, ce que le Père disait, ce qu'il voyait faire du Père. Mais nous, maintenant, notre inspiration pour faire quelque chose pour Dieu, on regarde ce qui réussit dans le monde, on regarde ce qui se fait dans le monde, puis on imite le monde. Puis on croit qu'on va réussir. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Je sais très bien que je me fais beaucoup d'ennemis en disant ça, mais c'est aucune importance. Je me suis même fait des ennemis, pensez-vous ce soir. Des petits gosses qui m'ont regardé comme ça. Parce que j'ai osé dire demain, je vous parlerai de quelqu'un qui ne voulait pas manger sa soupe. Paraît que ça a mordu dans certains petits cœurs. Je ne peux pas manger la soupe. Ce qu'il va nous dire. Est-ce que maman lui a dit quelque chose? Mais vous voyez la parole qu'elle fait. Oui. Mais nous n'avons pas à chercher à nous faire aimer. Nous avons à le faire aimer. Lors même quand vous aimant beaucoup plus, je devrais être moins aimé, je m'efforcerai toujours de vous dire la vérité. Parce que si je commençais à connaître quelqu'un selon la chair, eh bien, je serais en tort. Si au cours de notre existence, comme prédicateur, comme serviteur de Dieu, nous devions penser, ah, c'est monsieur un tel, c'est madame X, je ne peux pas dire ces choses-là, sans. Alors c'est ça, connaître quelqu'un selon la chair. Alors, on se taira, on ne dira pas ces vérités-là. Mais quand vous êtes dans l'esprit, vous devez dire tout ce que le Seigneur vous demande. Vous allez vous faire des ennemis. Vous allez vous faire des ennemis peut-être, mais vous n'avez visé personne. Nous ne visons personne. Mais si vous prêchez la parole, les gens se sentent concernés. Parce que ça, c'est pas Saint-Esprit. Nous devons nous sentir concernés. On n'est pas des arrivés, moi je ne suis pas un arrivé. J'essaye de m'exhorter. Alors vous me direz, mais alors la contemplation de Jésus, mais qu'est-ce que vous faites de la prière? C'est la quatrième chose. Mais la prière, vous savez pourquoi je l'emploie? Pourquoi vous devez l'employer? Je le souligne encore une fois, pas pour demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que sa volonté, vous la connaissez. Seigneur, je connais ta volonté, donne-moi la force de la compter. Voilà. La prière, nous l'employons.